Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de musulmans et musulmanes ambitieux qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
Est-ce que véritablement on peut se satisfaire de se taire et de ne rien faire et de ne pas chercher à faire bouger les lignes lorsqu'on a les ressources pour? Personnellement, je pense que non, parce que c'est une responsabilité qu'on a.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Aiter, chercheuse en sciences politiques associée à Sciences Po et à l'INALCO Paris. Elle s'intéresse dans sa recherche aux mobilisations communautaires musulmanes en France et notamment en ligne. Dans cet épisode, Sarah nous partage son expérience dans le monde universitaire et dans la recherche, avant de développer plusieurs sujets cruciaux, comme notamment l'importance de la mobilisation à l'ère de la disqualification et du coup psychique pour un musulman visible en France, surtout lorsqu'il essaie de faire bouger les lignes.
Et puis même le fait de jouir de certains bienfaits, en fait, les bienfaits aussi, ça fait partie des épreuves, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait, finalement, de ces bienfaits? Que ce soit des compétences intellectuelles, que ce soit des ressources économiques, enfin, les capitaux, quoi, qu'on a à notre disposition.
Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à rejoindre les groupes Instagram et Telegram Muslim Makers. Les liens sont en description. Bonne écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Sarah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdelrahman.
Comment vas-tu?
Alhamdulillah, très bien, comme un lundi matin. Et toi?
Bah écoute, très bien, je vais très bien, barakallahu fik. Sarah, écoute, je suis ravi de t'accueillir dans mon podcast Muslim Makers. Bon, on va être honnête avec les auditeurs, c'est la troisième fois qu'on reprend le début, on a eu des petits problèmes d'audio, mais c'est pas grave.
Bah écoute, je suis honorée que tu m'y aies convié, et ouais, c'est un plaisir pour moi.
Je t'en prie. Sarah, pour commencer du coup, je te propose de nous faire une petite présentation de toi, de ce que tu fais, Inch'Allah.
Oui, avec plaisir. Bah, écoute, donc moi, c'est Sarah Aiter. Je suis doctorante en sciences politiques en troisième année de thèse. Donc, je suis affiliée à la fois à Sciences Po et à l'INALCO, Paris. À côté de ça, je suis maman de trois enfants qui ont entre 8 mois et 11 ans. Et du coup, ouais, on peut considérer que j'ai 3-4 CDD à plein temps, quoi. C'est à peu près ça.
Ok. Sarah, tu es doctorante à Sciences Po Paris. Tu fais en ce moment une thèse, c'est quoi le sujet de ta thèse?
Oui, bah écoute, en fait, je m'intéresse globalement en fait aux mobilisations musulmanes dans le contexte français et plus particulièrement aux mobilisations en ligne. Donc, toutes les différentes formes d'activisme en ligne, les médias musulmans notamment, mais aussi les blogs et également ce que tu fais. Et je m'intéresse en fait à la démocratisation en fait de l'accès aux politiques qui nous a été donnée grâce à la démocratisation d'Internet, tout simplement. Et comment finalement ça a permis à tout un chacun de se saisir de cette opportunité pour s'exprimer à son point de vue, sa voix à lui. Et justement, ça nous donne à voir la pluralité finalement de la communauté musulmane et la pluralité des visages, des voix, des histoires et des trajectoires qu'il y a derrière. Et c'est un petit peu l'objet de ma thèse, en fait, d'essayer de montrer tout ça.
Ok. Et du coup, ça passe par des prises de contact avec les différents acteurs en ligne ou tu fais des recherches toi-même, tu regardes ce qui se passe tout simplement et tu essaies de faire ta propre analyse. Comment est-ce que tu fonctionnes?
Alors, les deux. D'une part, je m'intéresse beaucoup aux personnes qui sont derrière et à leur trajectoire, donc à leur histoire. Et vraiment, ce qui compte pour moi, en fait, c'est de leur donner la parole à eux. Et au lieu de parler pour eux, et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est d'amplifier leur voix à eux. Et donc, du coup, c'est aussi tout un nouveau rapport, en fait, à la recherche, qui est de dire je ne travaille pas sur des individus, je travaille avec eux. Et du coup, je les fais passer de simples objets du savoir à véritables sujets politiques. Et je crois qu'en fait, il y a tout un chantier en méthodologie de la recherche en sciences humaines qui est en train d'être questionné, réinterrogé. Je suis absolument pas pionnière en la matière, c'est important de le souligner. Mais voilà, cette nouvelle approche-là, je pense qu'elle gagnerait à être utilisée par beaucoup parce que je pense qu'on se perd en fait dans des analyses qui sont extrêmement subjectives. Et donc voilà, je pense qu'il faut revoir cette approche-là.
Et donc, par exemple,
c'est-à-dire que tous les experts un peu de l'ancienne école qui vont produire tout un discours savant, mais sur, bah, entre guillemets, des musulmans, mais qui vont être complètement déshumanisés, qui vont être homogénéisés à outrance. Et finalement, c'est même plus des individus, en fait. C'est une catégorie qui s'appelle musulman, mais il n'y a pas ce musulman dans l'absolu. Il n'existe pas. C'est tellement abstrait, en fait. Alors que voilà, enfin, moi je m'intéresse vraiment à peut-être peu d'individus, mais qui ont beaucoup de choses à dire. Et donc c'est une méthode qui est qualitative. Et c'est ça qui me semble important, c'est de prendre ces individus-là comme ils sont et de le restituer dans leur contexte, c'est-à-dire voilà, restituer ce qu'ils ont à dire et le replacer dans l'histoire. Donc, comment je procède en termes de méthodologie, c'est qu'effectivement, grâce à Internet, on a accès à des archives aussi en ligne. Donc, c'est super parce que du coup, j'ai des archives, par exemple, des médias musulmans qui remontent à leurs origines jusqu'à nos jours, puisque bon, ça apparaît au début des années 2000. Donc, voilà, c'est un phénomène qui est relativement récent. Donc, ça permet de suivre en fait l'évolution aussi du contenu, des lignes éditoriales, mais du contenu produit. Et c'est extrêmement corrélé, bien sûr, au contexte politico-médiatique hein, français. Donc, on voit complètement cette dynamique entre le contexte législatif aussi, et ce que disent, en fait, ces acteurs. Donc, il y a une vraie dialectique entre les deux. C'est presque, en fait, un dialogue, sauf que c'est un dialogue de sourds. Donc, voilà, c'est un dialogue, mais indirect, si je puis dire. Et puis, je m'intéresse aussi à ce que ces acteurs-là me disent, c'est-à-dire de leur histoire, de pourquoi en fait ils pensent le monde de la manière dont ils le pensent. Et enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est le plus fascinant, en fait, c'est voilà, de restituer un petit peu ces voix. En lien avec leur histoire. Donc, c'est une approche par la subjectivité des acteurs, par leurs yeux, en fait. Voilà, c'est ça que j'essaye de faire.
Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te retrouver à faire cette thèse, à étudier ce sujet-là en particulier? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à te retrouver à Sciences Po, cette école assez prestigieuse?
Alors, bon, il y a plusieurs questions en une, mais déjà pour répondre globalement, rien ne m'y prédestinait, mais alors vraiment absolument rien, dans le sens où ça n'a jamais été un projet en fait. Ça s'est fait vraiment, entre guillemets, comme ça, de fil en aiguille, de centre d'intérêt à intérêt personnel, comme ça. Et j'avais repris des études, une licence d'arabe en langue et civilisation arabe, il y a maintenant 10 ans, très exactement. Par intérêt personnel, en fait, tout simplement. Et puis, j'avais trouvé ça super intéressant aussi, tout l'aspect histoire du monde arabe. J'avais aussi fait de l'anthropologie, de la sociologie, etc., au début. Et c'était vraiment parce que je trouvais ça stimulant et intéressant. Et puis, généralement, c'est toujours lié à un intérêt personnel qu'on a déjà en amont. Donc ça, c'est très clair. Et puis, je crois que le choix de sa thèse est toujours lié à quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis après, voilà, j'ai poursuivi en master. Et donc, j'ai fait 2 masters différents, un master de langue et civilisation arabe, donc à l'INALCO, et un master plutôt sciences politiques, sociologie politique à Sciences Po. Et donc, les deux m'ont apporté des choses très différentes, mais que je trouve complètement... en lien avec mon sujet de thèse, puisque à Sciences Po, c'était tout ce qui était aspect minorité, donc gestion des minorités par exemple, mais également tout ce qui était en lien avec la sociologie de l'engagement et ces choses-là. Et de l'autre côté, j'avais aussi le background qui me permettait d'avoir une bonne connaissance, entre guillemets, comment dirais-je, universitaire, hein, de tout ce qui est lié à l'histoire du monde arabe et de l'islam. C'était aussi quelque chose que j'avais creusé personnellement, aussi à travers des études en sciences islamiques, que je faisais à côté. Et donc tout ça, en fait, a fait son chemin et concrètement m'ont amené à poursuivre en thèse. Je dois dire que c'était absolument pas prévu et que l'opportunité s'est présentée et du coup on l'a saisie et puis oui, ça a fait son chemin un petit peu comme ça et j'en suis assez ravie parce que quand on travaille sur quelque chose qui nous intéresse personnellement en fait, on n'a pas le sentiment de travailler en fait à proprement parler vu que c'est quelque chose qu'on aime faire et qu'on fait déjà en fait. Donc le faire tout en étant dans une situation entre guillemets confortable qui fait que on peut le faire en étant payé. Moi j'aime beaucoup écrire, c'est une passion, j'aime beaucoup lire, c'est une passion, j'aime beaucoup ces questions-là, c'est une passion. Donc oui, très concrètement, ça a ça de formidable de faire une thèse. Ouais, c'est ça réunit un
Ouais.
petit peu tout ça. Et puis je pense qu'on a aussi beaucoup cette barrière de se dire, pour beaucoup, on se dit non, mais ce monde-là, c'est pas le nôtre, en fait. On n'y pense même pas, on ne se projette pas forcément, et puis ce n'est pas forcément dans le champ de nos possibles. En tout cas, on le perçoit comme tel, alors que, au contraire, en fait, c'est à portée de main de quiconque le souhaite et s'en donne les moyens. Et vraiment, s'il y en a qui aiment écrire, qui aiment lire, c'est ça la recherche, qui aiment se poser des questions, qui aiment aller vraiment au fond des choses. Et puis un peu chercher à en découvrir davantage sur son sujet d'intérêt, mais aussi sur soi, parce que, on ne le dit jamais de manière aussi claire, mais la thèse, c'est un long chemin vers soi aussi, puisque en fait, quand on travaille sur certaines questions, c'est toujours lié à quelque chose de très intime et de très personnel. Donc, c'est aussi sur ça qu'on travaille, en fait, puisqu'on est amené à réfléchir sur notre propre condition aussi, sur le savoir qu'on produit. Donc, c'est extrêmement enrichissant et c'est une expérience qui est vraiment à la portée de tous, j'en suis convaincue. Preuve en est, Abdelrahman, et toi et moi, c'est ce qu'on fait aujourd'hui et je ne pense pas qu'on soit des surhommes ou quoi que ce soit. Donc, ce message, c'est vraiment pour dire que s'il y en a qui éprouve le désir de se lancer dans ce type de carrière, franchement, c'est formidable, parce qu'ensuite, on est un perpétuel apprenant, d'une part, mais on a également l'opportunité d'enseigner. Enfin, moi, j'ai enseigné, c'est la troisième année consécutive, dans des disciplines variées. Moi, je trouve que c'est juste magique, en fait. Voilà,
Très
donc,
bien.
ouais.
Et tes perspectives pour après, est-ce que tu as commencé à y réfléchir ou tu as déjà réfléchi aux perspectives pour après la thèse?
Alors, pas vraiment parce que je dois dire que ma philosophie de vie, c'est que je navigue à vue, c'est-à-dire que je mets un pied devant l'autre et je vois ce que ça donne et je prends des décisions à ce moment-là. Et donc c'est vraiment c'est vraiment une vision du monde. Mais comment dire, évidemment, il y a quand même des chemins qui se dessinent et a priori, si l'opportunité m'est donnée de poursuivre dans l'enseignement et dans la recherche. J'en serais ravie, mais après, on verra en fonction de là où on sera à ce moment-là, quoi. Pour l'instant, voilà, on navigue à vue.
Par rapport au sujet que tu traites, par rapport au fait que tu sois musulmane, par rapport aux autres sujets de thèse un peu plus standards, enfin, qui ne traitent pas de religion, toi tu traites un sujet plus sensible où tu dois faire plus attention, où tu as peut-être plus de problèmes, quoi que ce soit.
Clairement, oui, c'est un sujet qui est extrêmement sensible en France. J'insiste sur le en France. Effectivement, alors après, je ne parle pas de religion à proprement parler dans cette thèse. C'est vraiment, je m'intéresse aux individus et à leur histoire et à l'histoire de leur mobilisation. J'aurais pas je considère que je n'aurais pas les épaules assez solides pour traiter de l'aspect purement religieux. Et puis je pense qu'il ne faut pas non plus simplifier tout ce qui est lié en fait aux musulmans et le réduire à la dimension islamique puisque de leur identité, parce qu'en fait au-delà de leur islamité, il y a plein d'autres choses. Donc du coup ça c'est pour ça que j'essaye d'appréhender ce sujet-là au travers des individus et parce qu'ils ont des identités multiples. Enfin, voilà, il y a plusieurs strates dans leur identité, dans leur histoire, et qui font qu'ils sont le produit de leur histoire. Et donc, je pense que déjà, juste le restituer, ça, sera déjà un premier pas pour participer au savoir sur les musulmans, c'est-à-dire mais qui sont finalement ces musulmans. Donc, voilà. Après, effectivement, en tant que musulmane, est-ce que je peux produire un savoir sur les musulmans, et est-ce que ce savoir, à proprement parler, il sera, comment dirais-je, scientifique, recevable, scientifiquement recevable, etc. Autant qu'un autre, en fait. Je considère que quand on travaille sur un sujet, comme je te le disais, généralement, c'est lié à un intérêt personnel. C'est jamais anodin, c'est jamais le fruit du hasard. Et c'est le cas pour ceux qui ne sont pas musulmans aussi, en fait. Et pourquoi est-ce que, enfin, leur savoir serait plus, entre guillemets, neutre que le mien, sachant que, enfin, voilà, j'essaye d'être rigoureuse dans ma méthodologie, j'utilise les outils disciplinaires, hein, que ce soit de la sociologie, ou de la science politique ou de l'histoire, comme le font d'autres chercheurs. Et puis j'explicite aussi d'où je parle. Donc, évidemment, c'est un savoir qui est situé. Je parle d'une certaine position, du fait que je suis la personne que je suis, mais je l'explicite en fait dans mon travail. Et donc, plutôt que de parler d'objectivité, je parle de positionnalité. Et donc, enfin voilà, j'entame par une introduction où je me situe, j'explique pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet, pourquoi est-ce que ça m'intéresse, d'où je parle. Et à partir de là, enfin voilà, y a cette transparence-là. Et enfin voilà, le mythe de l'objectivité en fait du chercheur, c'est un mythe qui est déjà derrière nous en fait. Plus personne ne prétend à l'objectivité de toute manière. On est en train de parler plus de positionnalité et puis de rigueur méthodologique aussi. Donc voilà, enfin voilà, je me sens absolument pas moins légitime ou plus légitime que qui que ce soit. Et je crois que c'est important, notamment pour les nôtres, qu'on arrive à aussi entendre qu'on est tout autant légitime en fait que les autres. Alors sans tomber non plus dans un orgueil hein, démesuré qui serait de dire qu'on est voilà, formidable ou je ne sais quoi, bien sûr loin de là. Mais en tout cas, on n'est pas moins légitime. Et ça, c'est important aussi parce que on souffre pour beaucoup du syndrome de l'imposteur, qui est de se dire non mais moi, je pourrais jamais faire ci, ou je ne suis pas légitime à faire ci ou à dire ça, alors que tous les autres se sentent légitimes pour le faire, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas. Donc, enfin voilà, c'est vraiment très important qu'on conscientise tout ça et qu'on se dise évidemment, je ne vais pas produire enfin voilà, la thèse qui va révolutionner la face du monde, mais si déjà j'arrive juste à atteindre les objectifs que j'ai énumérer enfin voilà, les objectifs de ma thèse à petite échelle et que j'aurais participé à mon échelle à faire avancer la question, à participer au savoir sur les musulmans, les musulmans finalement c'est tout ça, c'est toute cette pluralité. Je trouve que c'est déjà un grand pas en fait, mine de rien. Et enfin voilà, enfin je pense que c'est important qu'on se considère comme autant légitime que n'importe qui d'autre dans nos domaines de compétences respectifs à tous. Voilà.
Très bien. Tu as commencé par faire ce que tu as dit, que tu as repris des études pour faire des études en langue arabe. Avant, tu avais fait d'autres études?
Non, pardon. En fait, avant ça, je m'étais consacrée en fait à mes deux enfants que j'ai eus relativement jeunes. Je me suis mariée jeune, juste après avoir eu mon bac. Et du
D'accord.
coup, voilà, j'ai repris mes études quelques années plus tard. J'avais 23, ouais, j'avais 23 ans quand j'ai repris mes études. Et du coup, c'est aussi quelque chose d'assez formidable dans le milieu universitaire ou même dans la recherche plus largement. C'est que, il n'y a pas ce profil type de à 23 ans, tu as fini ton master, ensuite, t'enchaînes avec. Une expérience dans le domaine de l'entreprise. Et enfin, voilà, il y a des profils qui sont tellement variés, en fait, dans ce milieu. Puis, il y a beaucoup de bienveillance. Enfin, comment dirais-je, La singularité des parcours, c'est vu comme vraiment de la richesse. Vous êtes bien accueillis. Enfin, j'étais sur les bancs de la fac avec des personnes qui avaient, je n'exagère pas, entre 18 et 90 ans. On a un doyen, dont je ne citerai pas le nom, mais qui avait plus de 90 ans, qui avait des arrière-petits-enfants et qui était avec nous en cours, et puis on en rigolait. Puis il y avait vraiment toutes les tranches d'âge, quoi, qui étaient, il y avait des profils tellement variés, des gens qui étaient en reprise d'études ou des gens qui voulaient, qui le faisaient par intérêt personnel, ou des gens qui venaient parce qu'ils étaient à la retraite, qu'ils avaient du temps, ou des mamans qui avaient envie de stimulation intellectuelle. Enfin, franchement, ça, c'était super chouette de vivre cette expérience en n'étant pas forcément un mouton noir isolé. Donc voilà, ça c'était chouette, mais je pense pas que ce soit le propre de toutes les filières universitaires, mais en tout cas, c'était le cas de la filière en langue et plus largement à l'INALCO, quel que soit le département. C'est comment dirais-je, une fac qui est connue pour avoir des profils extrêmement variés. Et c'est très enrichissant parce qu'on apprend aussi beaucoup des uns des autres et pas uniquement du contenu qu'on nous enseigne. Et donc, il y a cette dimension aussi très horizontale, en fait, de l'apprentissage. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie, d'ailleurs. Et même ce qu'on est en train de faire là, en fait, enfin, c'est que on essaye de s'enrichir des expériences des uns des autres, des retours d'expérience. Et voilà, cette dimension-là, elle est aussi... Enfin, pour moi, en tout cas, ça a été assez central parce que j'ai fait des rencontres qui ont été déterminantes. Qui m'ont ouvert le champ des possibles et qui m'ont aussi donné confiance. Et honnêtement, ça a été vraiment déterminant. Il ne faut pas minimiser aussi cet impact-là. Voilà, d'être entouré de personnes qui je ne vais pas dire qui croient en vous, mais qui vous montrent le chemin et qui vous facilitent. J'ai un projet de livre par la suite, après la thèse, qui sera... guide de survie du musulman à l'université, parce que c'est vrai que ouais, il y a cette dimension-là aussi qui est de se dire que nous on a des, enfin voilà, on a un certain nombre de, je parlerai pas de contraintes parce que j'aime pas ce terme, mais voilà, de choses auxquelles on tient et qu'il est important de pas perdre de vue dans cette période de vie, plus encore pour ceux qui ont, enfin voilà, qui enchaînent directement leurs études et qui n'ont pas forcément enfin voilà, la vie que j'avais moi en tant que maman, qui était que je venais en cours et que je filais chez moi aussi vite que possible. Et du coup, c'est important aussi cet aspect-là de le concilier aussi et de ne pas le vivre comme. Enfin, il y a des gens qui ont l'impression de faire le grand écart en fait entre ce qu'ils sont en tant que musulmans et ce qu'ils sont par ailleurs dans d'autres domaines de leur vie. Et justement, en fait, je crois qu'il faut qu'on réconcilie en fait ces différentes facettes de nos identités. Et de nous-mêmes, puisqu'en fait, elles ne sont pas en conflit, a priori. Ou si elles sont en conflit, c'est qu'on est en conflit intérieur et c'est vraiment problématique. Donc, je crois qu'au contraire, il faut qu'on essaye d'être en paix vis-à-vis de tout ça, de tout ce qui nous constitue. Et quel que soit le background, en fait, qu'on ait, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait, en fait.
Toi, tu le voyais quand tu étais dans tes études, tu voyais ça, cette double identité en dehors de la fac et à l'intérieur?
Bah oui, déjà, mais plus particulièrement parce que j'étais dans une filière quand même où c'était un vrai sujet. On avait des cours sur l'histoire de l'islam. Donc enfin voilà, et donc du coup, enfin avec toutes les questions que pose le discours orientaliste, etc. Effectivement, oui, sur le plan même de notre rapport, nous, à la croyance ou même à l'histoire. À la vérité, enfin, il faut appeler un chat un chat. Nous, on a un rapport à la vérité en tant que musulmans. On croit en une vérité qui est une vérité divine, en fait. Donc, déjà, ça, en fait, c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on soit au clair, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel, personnellement, je ne touche absolument pas. Ça a été assez facile pour moi parce que, comme je te le disais, en fait, j'étudiais par ailleurs. Donc, j'avais ce background-là qui faisait que j'étais sécurisée. Je sais que ce n'était absolument pas le cas de tout le monde. Enfin, il y en a qui ont été assez ébranlés, en fait, en eux-mêmes, qui ont été chamboulés, qui n'étaient pas forcément stables vis-à-vis de tout ça. Et
Tu veux
donc
dire
ça,
qu'il y avait
c'était.
des idées qui étaient répandues, qui étaient peut-être parfois pas alignées sur les croyances standards de l'islam, sur les grandes lignes, tu veux dire, des choses assez claires?
Tout à fait, oui, clairement. Après, bien sûr, chacun, on a chacun un rapport en fait à ces choses-là. Et on comment dirais-je, on n'a pas tous un seul et même rapport à cette vérité. Mais comment dirais-je, a priori, en tant que musulman, enfin, croyant et relativement attaché à tout ça, on a quand même un rapport à la vérité qui peut sembler problématique dans le monde universitaire. Où le rapport, en fait, comment dirais-je, au savoir est tout le temps questionnable, en fait. Enfin, ce rapport, entre guillemets, critique à tout type de discours, voilà, il est tout autre. Et donc, du coup, enfin, voilà, je pense qu'en tant que musulman, il faut qu'on soit conscient de ça, en fait. Je pense que c'est important qu'on communique entre nous et qu'on s'entraide aussi enfin, quant à comment est-ce qu'on appréhende en fait ce savoir-là et qu'est-ce qu'on peut en faire et en quoi ça nous enrichit aussi. Enfin, moi, ça m'a beaucoup enrichi, hein, donc je ne suis pas là pour dire que je suis complètement critique de tout ce que j'ai appris à l'université. Absolument pas. Enfin, ça a été extrêmement enrichissant, etc. Bien sûr, chacun en fait ce qu'il veut, hein. On bricole, on pioche, on choisit ce qui nous intéresse. S'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas forcément en phase, bah, on les laisse. Voilà, chacun en fait ce qu'il veut, mais je pense que c'est important aussi qu'on soit apaisé quant à tout ça, quant à ce qu'on est. Et c'est important que le discours qu'on produit aussi entre nous, il nous aide en cela, c'est-à-dire qu'on soit confiant dans notre identité en fait de musulman et qu'en soi c'est absolument pas un crime et voilà qu'on le vive de manière apaisée. Une autre problématique à laquelle j'étais confrontée, elle était purement d'ordre pratique, c'est-à-dire concrètement quand vous allez à l'université, comment vous faites pour gérer certaines de vos obligations? Je dois dire que là encore, ce qui m'a beaucoup aidée, c'était l'entourage, du fait qu'il y avait pas mal de musulmans, de musulmanes qui faisaient de l'arabe avec moi à l'université. Bah, on avait tous nos petits tuyaux, enfin voilà, on s'entraidait, puis on se sentait pas seul, etc. Donc ça a été d'une grande aide. Et puis au-delà de ça, on était entouré de personnes qui n'étaient pas musulmanes, voire pas du tout musulmanes, mais qui étaient extrêmement ouvertes, bienveillantes, compréhensives. Que ce soit au niveau du corps enseignant ou au niveau des étudiants. Et ça a été extrêmement agréable du fait de se sentir, comment dirais-je, voilà, pas. On n'avait pas besoin de se justifier par rapport à certaines choses. Voilà, on était face à des personnes qui étaient en quête d'apprendre, elles aussi, très ouvertes, qui avaient des. Enfin, voilà. Donc, c'était un cadre relativement bienveillant. Et donc, ça aide beaucoup. Et, mais je pense que ce n'est pas forcément existant partout. Mais que là encore, en fait, quand ça n'existe pas déjà, bah, ça veut simplement dire que c'est à nous de le créer, en fait. Et donc, voilà, c'est. Je pense que quelle que soit la filière, quelle que soit l'université, on n'a pas besoin d'être nombreux, mais on a besoin d'être quelques-uns, au moins. Et puis on peut faire de très belles choses si on s'entraide à différents niveaux.
Quand tu as repris les études, c'était par pur intérêt par rapport au sujet, tu visais pas forcément de carrière derrière.
Oui.
Tu visais pas spécialement de rejoindre aussi Sciences Po, par exemple.
Pas du tout. Pour être tout à fait franche, je ne devinais absolument pas que je rejoindrais Sciences Po. Et je ne l'ai peut-être pas dit de manière explicite, mais j'ai rejoint Sciences Po après ma licence d'arabe. Donc, rien ne m'y prédestinait. Et en fait, il y a un double master qui a vu le jour entre Sciences Po et l'INALCO qui visait justement à former les futures, bah, entre guillemets, élites spécialisées justement sur le monde arabe et le monde musulman. Et du coup, bah, ça s'est présenté à moi. Alors, bah, pas à l'issue de ma licence, j'avais déjà fait un master 1, mais du coup, on me l'a proposé à ce moment-là, parce que ça voyait le jour et on m'a dit que j'y aurais probablement toute ma place. Et du coup, j'ai tenté, et puis ça s'est fait. Mais voilà, c'était absolument pas dans mes plans de départ. comme je te le disais, je le faisais vraiment par intérêt personnel. Et puis, je m'étais aussi dit que peut-être sur le plan professionnel, ça me permettrait d'enseigner, par exemple. Mais à la base, enfin voilà, c'était vraiment plus l'intérêt qu'autre chose. Et je m'étais dit que si ça m'ouvrait des portes derrière, pourquoi pas.
D'accord. Sarah, qu'en est-il de faire une carrière, de faire ce genre d'études quand on est musulmane et qu'on porte le voile?
Alors oui, tu fais bien de souligner ce point, puisqu'effectivement, je porte le voile depuis de longues années maintenant, et du coup, je n'ai jamais réellement travaillé. Et maintenant que la question se pose de l'enseignement, qui est en plus une passion et une vocation de toujours, effectivement, c'est une véritable question en France, puisque c'est problématique, on ne peut pas travailler. Du coup, dans une université publique en portant le voile, il y a des opportunités qui sont comment dirais-je, minimes, puisqu'on peut enseigner dans des institutions privées, donc ça peut être des grands établissements dont on citera pas le nom, il y en a plusieurs, ça, il n'y a pas de souci, vu que tout ce qui est dans un cadre privé, une institution ou une entreprise, voilà, c'est laissé. À la volonté du recruteur. Donc, là-dessus, c'est une option possible, mais ça ferme énormément de portes quand il s'agit de l'enseignement, plus encore dans les sciences humaines et sociales, qui sont très largement enseignées à l'université. Moi, j'ai eu des opportunités d'enseignement qui m'ont été données, notamment à Sciences Po, donc j'ai été honorée par cela. Et ça a été super, c'était super chouette vu que voilà, c'est un petit peu venez comme vous êtes. Et donc ça c'est cool. Mais je sais que concrètement, je ne pourrais pas me projeter à long terme dans l'enseignement ici, vu que enfin voilà, c'est concrètement quasi impossible pour dire les choses simplement. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle on envisage de quitter le pays. Et d'aller vivre ailleurs, en tout cas pour un certain nombre d'années. Et on espère partir d'ailleurs à la fin de cette année scolaire avec ma famille. Donc voilà, je suis désolée si je tiens un discours un petit peu, comment dirais-je, noir là-dessus, mais
C'est la
voilà,
réalité
faut
des
être...
choses,
tout à fait, voilà. Je crois qu'il faut
Ben,
être
rejoins,
pragmatique à un
c'est
moment
ça.
et enfin, voilà.
En revanche, tu parlais de. Pour travailler, c'est assez compliqué, mais en tout cas, au niveau des études, tu n'as pas l'air d'avoir eu énormément de problèmes par rapport à ça.
Non, aucun d'ailleurs. Au contraire, de toute manière, ça fait partie des libertés individuelles, en tout cas, qui n'ont pas encore été remises en question sérieusement. Ça l'a déjà été, hein. Enfin, ça a déjà été l'objet de certains débats de certains politiciens, mais en tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour de manière sérieuse. Et non, non, honnêtement, j'ai rencontré aucun problème dans le cadre de mes longues études. Et donc vraiment, à ce niveau-là, enfin voilà, s'il y en a qui veulent se lancer dans des études universitaires, plus encore quand il s'agit d'études où vous n'avez pas de stage, par exemple, ou même quand il y a des stages, enfin encore une fois, c'est tout à fait possible. Voilà, ne vous fermez pas de porte juste par peur d'eux. Essayez, tentez. Et enfin, personnellement, j'ai eu aucun souci là-dessus. Et bien au contraire, j'ai vraiment été entourée à chaque fois. Y compris et même surtout au niveau du corps enseignant, de personnes extrêmement bienveillantes qui ont cru en moi, qui m'ont soutenue, qui n'ont pas hésité à me faire des lettres de recommandation quand j'en avais besoin, qui m'ont vraiment accompagnée au sens professionnel du terme, et puis même au sens intellectuel, et qui ont été des soutiens, qui ont été. Enfin voilà, j'ai participé à des événements auxquels ils m'ont conviée, j'ai été. Même invité à prendre la parole à ces événements-là. Honnêtement, vraiment, hein, et ça n'a jamais été un problème, enfin voilà, de porter le voile comme je le porte, et je le porte pas forcément de la manière la plus discrète qui soit. Et enfin voilà, donc je les remercie et de leur bienveillance à mon égard, et j'espère que ça inspirera d'autres femmes comme moi à saisir cette opportunité si elle se présente à elles.
On avait parlé au téléphone il y a quelques jours. Tu as évoqué le sujet de l'importance de la mobilisation à l'ère de la disqualification. Je trouvais que c'était un sujet intéressant. Est-ce que tu pourrais développer, nous parler de ce sujet un petit peu plus en détail?
Oui, bien sûr. Alors déjà, la question de la disqualification, c'est enfin, concrètement, je pense que tout le monde comprendra à quoi je renvoie, mais c'est-à-dire que enfin, d'être concrètement sur le banc des accusés en permanence, avant même d'avoir pris la parole,
En
donc
tant que
avant
musulman, on
même,
parle.
en tant que musulman, évidemment, bien sûr, avant même d'avoir pris la parole, vous êtes déjà coupable. Et le problème, c'est qu'en fait, nous, ça nous enferme dans une posture réactionnaire en permanence. Donc, qui consiste à soit surperformer le musulman gentil, bon citoyen, investi, etc., mais d'une manière qui finalement va au-delà, en fait, j'ai envie de dire, du raisonnable, dans le sens où ça nous contraint tellement que finalement, voyez, vous êtes finalement tout le temps en train de porter un masque, vous êtes tout le temps en train de sourire, tout le temps en train de dire oui, vous êtes gentil, et c'est-à-dire que si vous avez envie de dire autre chose, vous allez vous censurer ou vous auto-censurer. Vous n'allez pas pouvoir mettre le doigt sur des soucis de fonctionnement, de ceci, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, pas content, etc. Parce que si vous le faites, surtout sur certains sujets, non, ça va vous coûter trop cher. Il y a d'autres types aussi de réactions, bien évidemment. Hein. Ça, c'est une réaction qui est, je crois, peut-être la plus globale, mais il y en a d'autres qui vont concrètement vouloir rompre en fait avec cette affiliation en tant que musulman. Il y en a d'autres qui vont peut-être au contraire vouloir finalement se replier sur eux-mêmes ou sur leur communauté sans plus chercher en fait à se tourner vers entre guillemets la société majoritaire ou le groupe dominant. Et c'est dommage pour les deux. Mais je crois qu'en fait, il faut juste tout simplement qu'on sorte de cette posture réactionnaire. Peu importe en fait ce qu'on décide de dire, de faire ou quoi que ce soit. Libre à chacun de faire ce qu'il veut, de le gérer comme il veut. Mais je crois que c'est important déjà de sortir de cette posture réactionnaire et de se dire, là finalement, quand je suis enfermée dans cette posture-là, je me retrouve contrainte d'opter soit pour la surperformance du civisme, soit au final, entre une option A, B, C ou D, quoi, concrètement. Et pourquoi ne pas tout simplement faire les choses comme j'ai véritablement envie de les faire et dire ce que j'ai véritablement envie de dire? Et je crois qu'en fait, il faut qu'on sorte de cette forme d'autocensure parce que on contribue en fait aussi à cette propre aliénation. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le groupe dominant du fait que les médias mainstream nous disqualifient ou nous enferment dans une étiquette. Je crois que nous aussi, on joue un rôle en fait. Et déjà, il faut qu'on le conscientise et puis il faut aussi qu'on en sorte en fait, qu'on sorte complètement de cette posture et qu'on crée des espaces ou qu'on crée les choses qu'on a envie de créer, comme tu l'as fait avec beaucoup de brio d'ailleurs, Abderrahmane. Je crois que c'est un petit peu l'objet de ta démarche avec Muslim Makers. C'est
En
de
partie, oui.
créer des. Voilà. Donc, ouais, c'est une invitation à ça. Ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que chaque musulman, je suis sûre qu'il a des ressources à sa disposition pour faire et dire des choses qui lui ressemblent. C'est dommage de ne pas le faire. Si c'est uniquement parce que on considère qu'on n'est pas légitime ou que on a peur du prix qu'on va devoir payer derrière. Au contraire, je pense que c'est quand ces initiatives vont se multiplier que, au contraire, peut-être qu'on pourra espérer un apaisement du climat ambiant. Et puis, j'ai envie de dire, si c'est pas le cas, de toute manière, ça peut difficilement être pire que ça ne l'est déjà. Donc, je vois mal en fait ce qu'on a à perdre finalement.
Tu l'évoquais quand, encore une fois, on en parle au téléphone, mais il y a un certain coup psychique à ce qu'on vit en France.
Alors ça, oui, ça c'est un point qui est super sérieux et qu'on n'aborde jamais d'ailleurs et qui est totalement passé sous silence. Mais effectivement, il y a un coup psychique à être un musulman visible en France et plus encore à être un musulman visible qui essaye de faire bouger les lignes. Donc ça, clairement, oui, on l'a vu avec des grandes figures de la mobilisation en France qu'on nommera pas, mais c'est eux en fait qui canalisent tout quoi. C'est eux qui payent pour nous tous. Et le coût, il est cher, puisque voilà, c'est d'être un petit peu traîné dans la boue en permanence, sur la place publique. C'est vraiment pas marrant déjà pour la personne concernée, mais pour l'ensemble de ses proches aussi. Psychiquement, c'est pas marrant déjà d'une part d'être l'objet de la dépréciation sociale, déjà de manière générale quand on est un musulman visible. Ça l'est encore moins quand ça nous cible individuellement ou que ça nous attaque personnellement, enfin sur des choses qui ne regardent personne d'autre que nous-mêmes. Donc effectivement, cet aspect-là, il est à prendre en considération. Maintenant, voilà, c'est un calcul hein, que chacun de nous a à faire. Est-ce que véritablement, on peut se satisfaire de se taire et de ne rien faire et de ne pas chercher à faire bouger les lignes lorsqu'on a les ressources pour? Personnellement, je pense que non, parce que c'est une responsabilité qu'on a. Et puis même le fait de jouir de certains bienfaits, en fait, les bienfaits aussi, ça fait partie des épreuves, en fait. Qu'est-ce qu'on en fait finalement de ces bienfaits? Que ce soit des compétences intellectuelles, que ce soit des ressources économiques, enfin les capitaux, quoi, qu'on a à notre disposition. Ouais, je pense qu'il faut que tout ça, en fait, toutes ces ressources-là, on les utilise à profit. Et puis aussi qu'on se donne la main, qu'on s'entraide là-dedans. C'est comme ça qu'on va, je crois, réussir à atténuer les effets négatifs de la dépréciation sociale, de la disqualification et puis aussi de nos propres craintes aussi. Je pense que le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on va pas être tout seul à payer la facture, ça aide aussi à relativiser.
Cette réflexion-là que tu as développée, tu l'as toujours eue, enfin, depuis longtemps, ou bien elle est venue, tu l'as construite, ou bien tu as vu des personnes autour de toi qui t'ont inspiré par rapport à ça, comment ça t'est venu?
Alors évidemment, je pense qu'on est complètement le produit aussi de nos rencontres. Et donc ça, c'est clair et net. Et puis c'est pour ça que aussi, les personnes qui nous entourent, elles sont déterminantes dans nos vies, c'est clair et net. Mais aussi, je crois qu'on est aussi le produit de nos lectures et des personnes qui nous inspirent et des choses qu'on entend. Donc clairement, non, non, cette réflexion-là, elle est le fruit de tout ça, c'est-à-dire de rencontres, de personnes qui sont autour de moi dans ma vie, des personnes qui me sont chères, des personnes qui m'inspirent parmi les personnes inspirantes de la communauté qui sont passées avant nous ou qui sont vivantes aujourd'hui. Mais beaucoup sont, enfin, que j'ai découvertes au gré de mes lectures et qui m'inspirent enfin, voilà, qu'on a le sentiment de connaître, vous savez, à travers des lectures, on a le sentiment des fois de connaître ces personnes-là qui nous inspirent aussi. Donc ça joue beaucoup. Et puis après, notre pensée, je crois qu'elle évolue en permanence, c'est-à-dire que ce serait faux de te dire ou de prétendre que cette pensée-là, voilà, je l'ai découverte telle année et depuis, ça n'a pas bougé. Non, non, tout ça, ce sont des choses qui fluctuent en permanence. Nos identités fluctuent en permanence. En fait, je crois beaucoup à la notion de métissage. Nous sommes des individus métis, justement, de tout ça. Donc déjà de nos origines, mais du mélange aussi lié au pays où on vit, à la catégorie sociale à laquelle on s'identifie, à notre genre, notre métier, mais aussi, comme je te le disais, de tout le reste que j'ai mentionné précédemment. Donc tout ça joue en fait dans nos idées et comment on bricole avec tout ça et qu'est-ce qu'on en fait. Et donc ouais, clairement, le qu'est-ce qu'on en fait, comment on bâtit une pensée, une réflexion et puis potentiellement une réelle mobilisation de tout ça. Ouais, clairement, c'est un bricolage avec tout ce que je viens de dire, mais ce n'est pas le fruit de la réflexion d'un seul homme et encore moins de ma propre réflexion personnelle, loin, loin de là. Et je crois que c'est important de souligner aussi la richesse de ce capital-là, qui est le capital humain et qui est le capital de nos amitiés ou de nos rencontres inspirantes. C'est vraiment pas quelque chose à minimiser.
Tu nous as dit que tu avais 3 enfants, il me semble, Sarah.
Tout à fait. Oui.
J'imagine que tu dois poser beaucoup de questions par rapport à leur éducation. Je crois que le plus grand est au collège maintenant. Est-ce que tu essaies de leur inculquer tout ça? On parlait de l'importance de la mobilisation, alors de la disqualification, ce genre de choses, le fait de s'assumer. se préserver par rapport au coup psychique qu'on a de vivre en France, enfin qu'on a, moi, je suis pas en France actuellement, mais qu'on peut vivre en tant que musulman en France. Est-ce que tu essaies de leur inculquer des choses pour les préserver, pour les protéger, pour qu'ils soient équipés?
Alors, pour être tout à fait franche, moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'éducation silencieuse, qui est de dire finalement, ce qui va compter dans l'éducation d'un enfant, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on est ce qu'on fait, en fait. C'est ce qui va peser le plus dans la balance, je crois. C'est l'exemple. Donc, l'exemplarité, c'est quelque chose d'extrêmement important en tant que parent. C'est une énorme responsabilité, hein, justement, parce que vos enfants vous voient et c'est ce que vous faites qui va compter plus que ce que vous dites. Alors bien sûr, de temps à autre, on va également accompagner tout ça d'une parole, d'un conseil, on va verbaliser des choses, mais ça, c'est, je pense que ça représente allez, maximum 20% de ce que représente l'éducation de manière générale. Il y a un autre aspect aussi de l'éducation. Au-delà de l'exemple, enfin, moi je crois aussi beaucoup à la force des invocations. Et ça peut paraître peut-être bête de dire ça comme ça, mais enfin, nous qui croyons en l'invisible et qui croyons en ces choses-là, il ne faut pas minimiser en fait les effets directs et concrets des invocations. Et ça, c'est valable, bien évidemment, au-delà de l'éducation de nos enfants, hein, c'est valable pour tous les domaines de nos vies. C'est-à-dire qu'on parlait de cause tout à l'heure, de chemin, qu'est-ce qui a fait que et que ceci, que cela. Il y a aussi autre chose que je n'ai pas mentionné peut-être aussi directement, mais très clairement, il y a aussi les invocations, les prières de consultation, le fait de prendre le conseil aussi auprès de personnes qui sont de bons conseils. Tout ça, ce sont des choses déterminantes et dont enfin, voilà, c'est comme ça aussi que je gère l'éducation de mes enfants, c'est-à-dire. Voilà, ils nous voient vivre, ils se calent sur cette manière qu'on a de vivre. Et bien sûr, on discute de choses et d'autres. Je suis surtout là, en fait, pour répondre à leurs questions, plus que d'initier la prise de parole. J'aime beaucoup les écouter. Je pense qu'on a un rapport beaucoup trop vertical à certaines choses, notamment à l'éducation. Et bien sûr, il y a une verticalité. Mais ce n'est pas juste assis-toi et écoute ce que je vais te dire, ce n'est pas que ça. Moi, j'apprends beaucoup en fait de mes enfants, par exemple. J'apprends beaucoup. Je pense qu'en fait, c'est dynamique, quoi. On apprend, ils apprennent de nous et nous, on apprend d'eux. Et on apprend aussi la patience, on apprend la réforme, on apprend comment est-ce qu'on va faire mieux. Et ça, c'est tous les jours et c'est dans tous les domaines. Donc oui, je ne vais pas prétendre avoir une recette magique qui fait que hop, on arrive à éduquer ses enfants en claquant des doigts et ça va fonctionner. C'est un discours qui est vachement dans l'air du temps en ce moment et j'ai beaucoup de mal avec ça. Non, non, en fait, ce n'est pas vrai. La vie, c'est des réajustements permanents. Enfin, je veux dire, on est des êtres avec des limites, des faiblesses et on a été créés comme tels. Donc je crois qu'il faut complètement en fait en prendre conscience. Et c'est ce qui, justement, nous donne accès à des hauts degrés, hein. C'est parce que, justement, on reconnaît nos vulnérabilités et on oriente notre dépendance dans la bonne direction. Donc, c'est ça qui nous élève. Mais après, concernant les enfants, ça demande surtout une gymnastique logistique. Et donc, je crois que bah, dans l'époque moderne dans laquelle on vit, c'est concrètement. Des questions auxquelles beaucoup sont confrontés, hein. Les papas sont de plus en plus impliqués, donc c'est des questions qui les concernent aussi. Comment je vais faire pour lier tous ces aspects-là de ma vie finalement, en tant que parent, en tant qu'époux, épouse, en tant que voilà que maman plus spécifiquement ou papa, en tant que fils d'eux, en tant que voisin d'eux, en tant qu'ami d'eux, en tant que enfin voilà que chercheuse ou autre. Comment je fais en fait pour justement enfin voilà, on essaye d'exceller dans tous les domaines, mais bah, on se fixe des objectifs qui sont tellement absolus, qui sont inatteignables. Donc comment aussi se faire clémence vis-à-vis de ça, accepter ses limites et ne pas tout simplement finir par... Parce qu'il peut y avoir aussi un revers de la médaille, c'est que de toute façon, si on est trop exigeant aussi, ça peut être destructeur. Donc, je crois que dans l'éducation des enfants, c'est un aspect qui est important, c'est cette modestie en fait vis-à-vis de soi et des autres. Je pense que c'est quelque chose de fondamental que j'illustrerai par l'exemple aussi de savoir aller voir son enfant et de lui dire qu'on s'est trompé. Là, je me suis trompée ou j'ai été excessive et je m'en excuse et ça arrive à tout le monde et on avance et on essaye de se corriger. Donc voilà, moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est beaucoup, voilà, ce qu'on fait. C'est ça qui participe à l'éducation, où l'on va, qui on voit, qu'est-ce qu'on fait avec eux, où est-ce qu'on les emmène, la manière qu'on a de les traiter avec bienveillance, avec clémence, mais aussi de savoir poser des limites. Donc, l'assertivité, c'est important de savoir être ferme tout en étant bienveillant. Puis aussi accepter qu'on va se tromper et que ce sera ni la première ni la dernière fois, quoi. Ouais.
Et comment est-ce que tu gères tes activités et ta vie personnelle, ta vie de mère et d'épouse?
Alors, pour être tout à fait franche, ça c'est venu progressivement, mais c'est quelque chose qui est super important pour moi. C'est le fait d'être rigoureuse et de m'imposer une certaine discipline. Je crois que c'est fondamental. Et je crois que c'est fondamental plus largement, en fait, en tant que musulman, en fait, d'être exigeant, en fait, vis-à-vis de soi, quand même, un minimum. Parce que sinon, on sombre dans une forme de laxisme qui est qu'on se laisse porter par la vie et puis finalement, qu'est-ce qu'on en fait? Pas grand-chose. Donc, je crois que c'est important qu'on soit exigeant et qu'on soit discipliné. Et d'ailleurs, cette discipline, finalement, elle nous est donnée par le cadre des attentes en fait religieuses. C'est-à-dire qu'a priori, en fait, notre rythme de vie, il est déjà marqué par un certain nombre de choses. Que ce soit les 5 prières quotidiennes à des moments déterminés, les évocations qui sont fixées à des moments déterminés de la journée ou en fonction de ce que l'on fait ou à des moments spécifiques de la journée, du matin, du soir. Et ensuite, comment est-ce qu'en fait, on va essayer de caler nos activités au mieux de manière à ce que... Est-ce qu'on arrive à articuler tout ça de la manière la plus sereine possible et aussi ne pas hésiter à... Enfin, moi, je crois beaucoup à la force de la tribu. Hein. Je crois que justement, une des grandes raisons de la souffrance humaine à l'ère d'aujourd'hui, c'est l'individualisme poussé à son paroxysme. En fait, les gens sont très, très seuls et ils essayent de tout gérer tout seuls et ils comprennent pas pourquoi ils pètent les plombs. C'est tout simplement parce qu'en fait, on n'est pas fait pour vivre comme ça. À la base, enfin, on n'a jamais vécu comme ça sur la surface de la planète Terre jusqu'il y a peu. Et donc, enfin voilà, moi j'ai un rapport à la famille, oui, à la famille élargie, qui fait que ça aide aussi beaucoup. Et quand c'est possible, ben voilà, il y a toujours une mamie pas loin, une tata, et vice-versa. Et c'est chouette, c'est comme ça aussi que... Voilà, j'ai pas honte de dire que non, je ne gère pas tout ça avec brio, seul, comme un grand chef. Je crois que c'est possible pour personne et qu'il n'y a aucune honte à cela et il n'y a aucune honte à s'entraider mutuellement. Je crois qu'au contraire, c'est une des principales forces qu'on a au sein de cette communauté, ces valeurs qu'on a de famille et même de solidarité intracommunautaire entre voisins ou entre amis, etc. Je crois qu'au contraire, il faut absolument qu'on sollicite ces réseaux et qu'on, enfin voilà, qu'on en use de la plus belle façon. Ouais.
Bah écoute, merci beaucoup pour tes conseils, Sarah. Sarah, on arrive à la fin du podcast. Je vais finir par quelques petites questions. Mais avant que tu les poses, est-ce que tu penses qu'il y a un sujet qu'on aurait pu évoquer, qu'on n'a pas évoqué, que tu souhaiterais peut-être partager avant qu'on finisse avec les petites questions?
Alors, tu sais quoi? Je te laisse faire les petites questions, on y répond et je te dis ça à l'issue des petites questions. Comme ça, je saurai si on a oublié quelque chose qui me semble important.
Écoute, on laisse réfléchir ton
Ouais.
subconscient. Est-ce que tu as des routines, Sarah, qui t'aident à progresser ou à garder ton énergie?
Oui. Super question auxquelles je n'aurais pas forcément pensé, mais moi, ce qui me donne entre guillemets de la force, alors bien sûr. On s'entend là-dessus quand je dis ça, mais ce qui m'aide beaucoup, en tout cas au quotidien, c'est de donner beaucoup d'amour à ma famille et qui m'en donne en fait en retour. Donc ça, c'est vraiment, ça me porte et je les porte. et on est très très proches. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est enfin, qui c'est une énorme aide. Vraiment, c'est une énorme, énorme, énorme aide. Enfin voilà, moi j'ai pas du tout honte de ces choses-là et je crois qu'il faut pas qu'on ait honte de ces choses-là parce que ça nous aide beaucoup, hein, que ce soit des bonnes paroles, que ce soit des gestes, peu importe. Comme on dit, les choses les plus importantes de la vie sont les choses qui n'ont pas de prix, elles sont gratuites, elles sont à portée de main et c'est ça qui, enfin moi, c'est ce qui m'aide le plus dans mon quotidien. C'est vraiment ça, c'est un ensemble de petites choses mais qui me donnent le sourire, qui me donnent la pêche et. Qui m'aide concrètement, ouais.
Et du coup, tu en reçois en retour.
Bien sûr, oui, bien sûr. Enfin, c'est même un besoin. Et puis, je crois que en tant que femme, encore plus peut-être, je ne sais pas. Mais oui, bien sûr, en tant que mère, en tant qu'épouse, et puis même en tant que fille, sœur et autres. Puis à l'ère du numérique avec WhatsApp et compagnie, oui, concrètement, le fait de se sentir quand même. Aimer et puis d'être entouré de gens qu'on aime aussi en retour, de savoir qu'ils sont là, qu'on peut compter sur eux, et puis ils savent aussi en retour qu'ils peuvent compter sur nous. C'est vraiment une énorme aide et vraiment, j'invite tout un chacun à réaliser en fait la beauté de ces choses-là dont on sous-estime la valeur.
D'accord. D'autres routines, peut-être?
Après, en termes de routine, alors malgré le fait que j'aime beaucoup, voilà, comme je disais, voilà, l'échange, les gens, etc., besoin de couper, besoin de solitude, même si c'est pas de toute façon, avec le rythme de vie qu'on a, c'est pas possible d'avoir des énormes plages de solitude, mais d'en avoir, c'est absolument vital. Et je crois qu'en tant que croyant, c'est fondamental, parce qu'en fait, on peut pas se ressourcer en permanence auprès des autres. On le fait, hein, ça aide, donc ça c'est la dimension horizontale, mais je crois que notre être, il a profondément besoin de se ressourcer verticalement en coupant avec le reste et vraiment en cherchant à se reconnecter avec le divin. Sans ça, pour moi c'est comme, voilà, c'est bête, mais c'est comme si on ne recharge pas son téléphone la nuit. Si le lendemain il n'y a pas de batterie, c'est mathématique, enfin, c'est logique, c'est pareil. C'est-à-dire que vraiment, je crois que c'est important qu'on arrive à donner un moment ou des moments qu'on consacre vraiment à se ressourcer. Et quand je dis se ressourcer, ce n'est pas forcément uniquement la prière ou le zikr ou les invocations ou couper. On a besoin de moments où on coupe, on est seul face à soi-même. Et ça, vraiment, c'est fondamental. Mais on a aussi besoin enfin, moi, je suis des cours religieux et de tafsir et je ne me vois pas vivre sans ça. Et malgré le fait que, voilà, comme je te le racontais un peu ici, voilà, j'ai pas mal de choses à faire, mais pour moi, ça, c'est une priorité absolue. S'il fallait faire des choix, ça serait toujours dans la liste des choses que je garde. J'ai dû mettre ça entre parenthèses au moment de mon master parce que vraiment c'était très compliqué et avec l'âge de mes enfants, etc., je ne pouvais pas et ça m'a coûté très cher. Et très sincèrement, voilà, je plus jamais. C'est vraiment quelque chose de très important aussi parce que quand on suit des cours, bah, on n'entend pas que ce qu'on a envie d'entendre. Je crois qu'un des pièges aujourd'hui, c'est que comme on consomme l'islam, comme on a envie de le consommer, ça a aussi ses limites en fait. Parce qu'en fait, on est entouré de gens qui sont aimants et bienveillants, mais ils ne nous disent pas forcément stop, là ça ne va pas là. On est à une époque en fait où c'est très difficile en fait. Cet aspect-là, on l'a un petit peu mis sous le tapis. Et du coup, quand on va écouter des rappels, ben, on écoute des rappels qu'on a envie d'écouter, puisqu'on clique, le titre nous parle, etc. Mais on n'écoute pas les rappels qu'on a besoin d'écouter et qu'on n'a pas envie d'écouter. Et je crois que ça, c'est dommage. Parce qu'en fait, quand on n'est pas dans des cours qui imposent eux leur rythme et leur programme et le contenu, bah du coup on n'est jamais confronté à cet aspect-là et puis enfin voilà on a très très peu de réelles personnes autour de nous qui auront suffisamment de lucidité et de clairvoyance pour nous dire parfois des choses qu'on a moins envie d'entendre déjà parce qu'on les montre pas déjà nous-mêmes. Donc ça c'est aussi un des drames hein, de l'époque qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est toujours au top tout le temps partout, ce qui n'est pas vrai. Donc, je crois que c'est important, je crois, en fait, d'avoir des relations franches et honnêtes et vraies, en fait. Je trouve que c'est plus enrichissant d'en avoir quelques-unes que d'avoir 25 000 amis sur des réseaux sociaux et qui vont jamais nous prendre par la main en disant « j'ai l'impression que là, ça va pas, je te reconnais pas » ou je ne sais quoi. Donc, vraiment, pour moi, vraiment, suivre des cours religieux, notamment, enfin, ce que je prends, en fait, c'est une invitation à la méditation. C'est du tafsir et du tadabbur. Et c'est juste formidable, en fait, parce que ça vous remet, en fait, les idées en place. C'est les lunettes que vous avez besoin pour avoir la clairvoyance et qui vous aident pour tout le reste. Et donc, vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est qu'il faut jamais s'éloigner, en fait, de ce type d'assemblée. Quel que soit ce qu'on a à faire, quel que soit le nombre de casquettes qu'on porte, c'est la principale et c'est la plus légitime à mon sens.
Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'essaie de jamais mettre de côté mes quelques cours que je suis. Ouais, je trouve que c'est important malgré toutes les responsabilités qu'on peut avoir. C'est un peu une sorte de pilier, tout comme la prière et les autres choses sont des piliers, mais le fait de se rencontrer avec d'autres musulmans et d'apprendre des choses, ça, c'est un autre pilier très important, je trouve.
Ouais, et puis ça vous lie aussi. Enfin, je trouve que ça vous lie. Enfin, même avec les personnes avec qui on partage juste des cours, même si on ne les voit pas particulièrement en dehors et tout, bah, ce groupe-là, on y est lié en fait d'une manière ou d'une autre. Et ouais, ça a quelque chose de beau.
Très bien. Toi qui es une grande lectrice, Sarah, est-ce que tu aurais des recommandations de livres, quelques-uns qui t'auraient particulièrement marqué?
La première des choses, déjà, parce que ça, c'est. Excuse-moi, je sais que ce n'est pas un rappel religieux, mais parce qu'on prend ça trop à la légère. La première des choses, c'est que le musulman est un lecteur, qu'il le veuille ou non. C'est qu'en fait, on a un lien au livre et on a un lien au livre sacré qui est fondamental. Et d'ailleurs, notre lien à ce livre-là, il nous en dit beaucoup de notre lien tout court à Allah, en fait. Donc ça, c'est la première des choses, c'est que faut pas qu'on aille se coucher si on n'a pas lu un verset, quoi. Enfin, pour un verset symbolique, mais on l'a ouvert, quoi. Ça, c'est la base. Et donc ça, oui, forcément, s'il faut avoir un seul livre, c'est celui-là. Et en fait, on n'a jamais fait le tour, même si on a fait le tour hein, des pages, on n'a jamais fait le tour de tout ce qu'on peut épuiser dedans, en fait. Et des fois, on lit un passage, on l'a lu 1 000 fois, on se dit, oh, waouh, ah ouais, là, je vois autre chose, en fait.
C'est pas
Et
mal.
donc ça, ouais, vraiment, vraiment. Donc ça, c'est la base. Ensuite, en livres qui m'ont inspirée de manière
Tu as une
générale.
traduction favorite du Coran?
Oui. Il y a la traduction de Nabil Al-Youan, qui est la meilleure traduction en langue française et que recommandent les profs de tafsir en France. Et elle est formidable parce qu'en fait, il a condensé le tafsir enfin, les différents tafsirs, donc Ibn Kathir, mais plein d'autres, et dans sa traduction, et avec les notes de bas de page, et c'est super dense. Et c'est quasiment, en fait, tu lis en même temps que la traduction, tu lis un tafsir en fait, mais un bon tafsir. Donc il est unique en son genre. Après, de manière générale, en termes de lecture, il y a plein de lectures qui m'ont nourri. Donc ça va être difficile, mais grosso modo, là, ce qui me vient à l'esprit, il y a Vers la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, qui est très court, mais qui est vachement inspirant pour qu'on réalise en fait plein de choses sur notre condition en tant qu'homme moderne qui est en train de vivre. Dans une époque qui est le résultat de plein, plein, plein de transformations qui ont chamboulé les modes de vie et qui fait que bah, on est profondément dysfonctionnel et qu'on a plein de soucis qui sont des soucis très modernes. Donc ça, c'est une super lecture. Après, c'est vrai que je puise dans un répertoire très, très large. Donc peut-être, enfin, j'ai envie de dire, ma bibliothèque, elle est aussi hétéroclite presque que mon répertoire, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de tout et même le reste. Enfin, je veux dire, j'ai jamais fini de faire le tour. Donc, je peux lire un livre sur la vie secrète des arbres et ensuite je vais lire un truc sur le monde de demain post-capitalisme et ensuite je vais lire. Enfin, voilà. J'ai acheté un livre là que je suis en train de lire, c'est Construire sur les ruines du capitalisme. Je l'ai acheté là parce que ça m'a inspiré. Mais j'ai également lu Lilian Thuram, La pensée blanche. Il est super intéressant ce livre, super intéressant. Et puis là, en ce moment, j'étais pas mal dans l'écriture plus que la lecture. C'est pour ça que C'est difficile pour moi de te donner quelques titres précis, parce qu'en fait, je papillonne dans des livres, vu que je suis dans un process d'écriture. Donc, je suis plus dans ça en ce moment, donc plus recherche et écriture que lecture.
D'accord.
Mais évidemment, oui, je lis beaucoup en anglais aussi, donc la littérature anglo-saxonne et même tout ce qui est produit de manière générale dans le monde anglo-saxon. Je puise beaucoup aussi dans ce répertoire-là, y compris religieux et ce qui est produit sur Internet. Je trouve que c'est très enrichissant en fait de puiser aussi là-bas parce qu'en fait ça apporte complètement autre chose et c'est vachement enrichissant.
D'accord.
Notamment, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime beaucoup le cheikh Yasser Al-Qadi et ses vidéos,
Yasser Qadi?
etc.
Ah
Donc,
ouais, trop. Moi aussi, j'écoute beaucoup Yasser Qadi.
ouais.
Ouais. Allez, en termes de mobilisation, il est au taquet. Hein. Masha'Allah.
Ouais, il est bien. Voilà.
Que Dieu le préserve.
Ouais.
Sarah, du coup, je te repose la question. Vu que tu m'as dit que tu voulais réfléchir un petit peu, est-ce qu'il y a un sujet qu'on a oublié ou une pensée, enfin, quelque chose que tu voulais peut-être évoquer avant qu'on termine?
Il y a autre chose au fait qu'on n'a pas réellement abordé comme ça, mais le fait d'être une femme en fait, et les dilemmes en fait qui sont les nôtres en fait, bah, ils sont spécifiques. Enfin, qu'on le veuille ou non, on est confronté à des dilemmes spécifiques et du coup à certaines problématiques spécifiques. Je pense que c'est important qu'on arrive à en discuter aussi entre nous, en tant que femmes et en tant que femmes musulmanes plus particulièrement. On est confronté à des problématiques, d'une part parce qu'on essaye de concilier déjà le fait d'être mère avec le fait d'être, bah, je ne sais quoi, chercheuse ou autre. Et tout ça, ce sont des choses qu'on essaye de réconcilier, mais qui peuvent être aussi l'objet de beaucoup de culpabilisation. Bah déjà de notre part, mais aussi de la part d'autres, de la société plus largement, ou de pairs, PAIRS, hein, j'entends. Et je crois qu'en fait, ce qui est le plus important, et ça, on ne l'entend pas suffisamment, en tout cas, c'est ce qui est le plus important pour des enfants, ou ce qui est même le plus important juste pour nous-mêmes, c'est que on soit nous-mêmes. Bien entendu, on a un mode d'emploi, on sait qu'on a des choses à faire, des choses à pas faire. Mais si on vit dans le déni de soi permanent, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui avait besoin absolument de stimulation intellectuelle ou de nature, enfin voilà, si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de nature, et sinon vous coulez et que vous vivez au milieu de Paris ou de New York, vous allez souffrir toute votre vie. Et c'est pareil pour, en fait, si vous êtes une femme qui avait besoin de lecture ou d'écriture, mais que vous vous privez de ça, eh ben, vous allez être une mère qui allait souffrir toute votre vie et vous allez élever vos enfants avec ce poids-là. Et ils vont le porter en fait avec vous. Et en plus de ça, et ça c'est documenté, on le sait aujourd'hui, une mère qui, entre guillemets, se sacrifie complètement pour ses enfants, mais à contre-cœur, c'est-à-dire elle va leur faire porter. Elle va leur dire, oui, mais moi je me sacrifie, nanana. Et eux, ils vont porter le poids de sa tristesse, ils vont s'en sentir responsables et ils vont mal le vivre. Donc ça c'est vraiment, c'est-à-dire que je pense que c'est une question d'équilibre, hein. C'est toujours fragile, hein, l'équilibre qu'on construit, mais c'est important qu'on arrive aussi en fait à accepter, non, j'ai besoin de ci, ou je sais que j'ai vraiment besoin de telles choses. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'activité physique, c'est un besoin physique. Mais si vous ne le faites pas, bah, regardez enfin, comment vous allez finir, passer X temps. Et donc c'est valable aussi pour la femme, c'est-à-dire accepter ces pans-là de sa personnalité ou de sa personne enfin voilà, peut-être qu'on a été monté comme ça, on est comme ça, et maintenant composer avec. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on, je pense qu'il faut pas qu'on soit dans le déni de soi et de se dire je vais ouvrir un livre et je vais faire la même chose, parce que ça va pas marcher de la même façon. C'est de se dire comment je vais faire avec ce que je suis pour essayer de tendre vers le meilleur, mais avec ce que je suis et comment je compose avec ce que je suis. Et donc déjà, ça suppose en amont un travail sur ce que je suis. Et donc, c'est important parce que celui qui chemine vers lui, il connaît son Seigneur. Et celui qui chemine vers son Seigneur, il doit se connaître. C'est complètement corrélé. Et donc, je crois qu'en tant que femme, plus encore avec toutes les injonctions que ça sous-entend, beaucoup, beaucoup, beaucoup sont dans comment dirais-je, dans des situations où, en fait, leur vie n'est que, je ne dirais pas pièce de théâtre, mais déni et souffrance. Et donc, je crois
Un sacrifice.
que les sacrifices, mais le sacrifice, il n'a de valeur que si on le fait avec l'intention du sacrifice et avec la volonté du sacrifice. C'est-à-dire que c'est comme la patience. Il y a patienter et il y a subir. La patience, elle a sa récompense, parce que la patience, c'est aussi l'acceptation pleine, dans son cœur, même si on fait des causes pour que ça change. La patience, ce n'est pas la passivité. Et la patience, ce n'est pas subir avec le cœur, comment dirais-je, qui est révolté. Donc, encore une fois, voilà, ces notions-là, il faut qu'on les comprenne, mais correctement. Bien évidemment, patience, bien évidemment, résilience, bien évidemment, tout ce qu'on vient de dire, mais véritablement, dans ce cas. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais donc, voilà, ce sont des choses sur lesquelles on doit réfléchir. Et je pense qu'en fait, ce qu'on essaye de construire, tout est à créer. Et c'est, il n'y a pas de formule magique pour tout le monde, ça aurait été trop simple, mais chacun, voilà, va s'inspirer de choses qu'il va entendre, notamment dans Muslim Makers ou ailleurs. Il va prendre ce que lui parle, ce dont lui va avoir besoin, et il va piocher comme ça, et ensuite il va construire lui, il va innover, parce qu'il va construire son petit chemin à lui, en fonction de ce qu'il est au départ, et en fonction des ressources qu'il a. Et c'est ça aussi qui est important, c'est vraiment de comprendre aussi cette singularité qui fait la richesse et la beauté aussi des êtres humains et qui fait qu'on s'ennuie jamais, en fait, finalement. Ce serait même pas drôle, quoi, si on était tous les mêmes. Mais je crois que vraiment, en tant que femme, c'est hyper important qu'on arrive aussi à l'entendre et plus particulièrement au sein de la communauté. Je veux dire, passer le ménage et la serpillière, etc., etc., ça peut être... Ça, enfin, voilà, comment dirais-je, c'est tout à fait noble de prendre soin de son foyer, etc. Il n'y a aucun souci. Éduquer ses enfants, c'est très bien, il n'y a aucun souci. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus qu'on oublie que on existe aussi, c'est-à-dire en tant que personne, en tant qu'individu. C'est-à-dire, oui, femme au foyer, mais Sarah, femme au foyer. Oui, épouse, mais Sarah, épouse. Oui, mère de famille, mais version Sarah. Oui, croyante, mais version Sarah. Et donc, vraiment, où est Sarah dans tout ça? C'est la question qu'on doit se poser chacun de nous en fonction de son prénom. Oui, croyant, mais un tel. Et ce n'est pas pareil. Parce qu'en fait, déjà, ça suppose de tenir compte de ses spécificités. Parce que ces spécificités-là, ce n'est pas nous qui les avons choisies. Et c'est la sagesse et la miséricorde d'Allah qui les a choisies pour nous. Donc, voilà, vraiment se réconcilier avec tout ça et essayer de construire du neuf et du solide.
Très bien.
Voili,
Bah écoute, j'ai bien fait de te poser la question. Sarah, je te remercie beaucoup, c'était vraiment hyper intéressant. Mais, enfin, le dernier point aussi était vraiment super, c'était vraiment passionnant. J'aime beaucoup ta manière de penser et je trouve que c'est des choses auxquelles enfin, beaucoup pourront se retrouver et retirer des informations intéressantes pour eux. Inch'Allah, je l'espère en tout cas.
j'espère aussi.
Sarah, je te souhaite une bonne semaine, vu qu'on est lundi, et je te souhaite tout le meilleur et que Dieu mette la baraka dans tes projets, Inch'Allah.
Amin, Ajmarine.
Amen.
Barakallahu fik à toi, Abdelrahman, de cette invitation. Et puis, voilà. Salam alaikum.
À très vite, salam alaikum. J'espère vraiment que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à 3 personnes de ton entourage et à faire des invocations pour qu'Allah bénisse cette initiative. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.